Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Belinda Boussouma.
À la une, signature hier à Kinshasa du contrat de mandat entre le gouvernement et les mandataires publics. Selon ce contrat, tout mandataire public devra notamment rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts. Le gouvernement congolais appelé à assainir la RDC des mines et explosifs de guerre d'ici à 2025, appel lancé mardi par l'ONG Action Congolaise pour interdire les mines. C'était à l'occasion d'une campagne de sensibilisation dans les camps des déplacés sur le danger des mines et engins explosifs. Et puis, Tommy Lukela, guérir par la raison, c'est le dernier né dans le monde de la littérature à Goma. Il est passé sur les fonts baptismaux dimanche dernier à Goma. L'auteur du livre, Moïse Angui, est l'invité de ce journal. Mais sachez d'abord que la publication des résultats de la 58e édition de la session de l'examen d'État a débuté hier dans la soirée. Ces premiers résultats concernent uniquement les 5 provinces éducationnelles suivantes: Kinshasa Moamba, Kinshasa Plateau, Congo Central 1, Équateur 1 ainsi que Kwilu 1. Le taux de réussite pour l'ensemble des provinces éducationnelles traitées est de 60%. Dans un communiqué rendu public à cet effet, l'inspecteur général de l'EPST renseigne que la publication se poursuivra jusqu'aux environs du 24 août par vague de 5 ou 6 provinces éducationnelles. Madame, Messieurs, bonjour. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a signé hier à Kinshasa le contrat de mandat avec les mandataires publics pour imprimer une gestion orthodoxe au sein des entreprises publiques. Ce document est signé conformément à la loi fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon ce contrat, tout mandataire public devra rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et détails prévus par les statuts et à chaque fois que le mandat les requiert. Il a également l'obligation de faire preuve d'une gestion transparente, orthodoxe et axée sur les résultats. Quant au mandat, il doit s'assurer que le mandataire public bénéficie auprès de la société dans laquelle il exerce sa fonction d'une rémunération juste et digne ainsi que de tous les avantages liés à son mandat. Ce contrat est conclu pour une durée de 6 ans et peut être renouvelé en cas de nouvelle nomination dans les fonctions du mandataire public. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a recommandé au mandataire public de faire preuve de bonne gouvernance pour atteindre les résultats attendus. Pour sa part, la première ministre Judith Suminwa a salué la tenue de ces assises qui, selon elle, replacent les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Cette activité a par ailleurs connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, de l'intérieur et celui des transports.
Et puis, le continent africain représente 1%, soit 74 milliards de dollars du marché mondial des assurances. La République sud-africaine rafle à elle seule 70%. Le Maroc, l'Algérie, le Kenya et le Nigeria se partagent 18% et les autres pays africains dont la RDC se partagent les 12% restants. C'est le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC qui livre ces statistiques. Il a révélé hier lors de la présentation de l'état du marché des assurances en RDC pour les exercices 2021 et 2022. Depuis la libération du secteur et son entrée en vigueur en 2018, la part de la RDC réalise 0,5% du marché africain des assurances. Pour Alain Kaninda, directeur général de l'ARCA, le marché congolais est croissant avec 320 millions de dollars réalisés en 2023, venant de 70 millions de dollars en 2018. Alain Kaninda est au micro de Daniel Tambinzoni.
Aujourd'hui, atteindre un taux de pénétration qui avoisine 0,5% pour les opérateurs, que ce soit de la zone CIMA ou les différents investisseurs, je vois qui arrivent sur notre marché, réalisent que dans les quelques années, comme je vous l'ai indiqué, 2025-2028, nous pourrons rentrer dans la moyenne africaine. Et si nous le faisons en moins de 10 ans d'existence, ce serait une performance qui est exceptionnelle. Et nous voyons aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'opérateurs qui observent notre marché et qui aujourd'hui viennent concrètement au niveau du régulateur. Nous avons reçu les Kenyans, les Ghanéens, les Nigérians, même d'autres en Europe. On sent que les gens veulent venir investir dans ce secteur et sont en train de suivre la tendance haussière et la croissance qui est au niveau de notre marché. Donc ce sont des signes qui sont encourageants et donc nous allons continuer à nous nos employés pour mettre en place un secteur qui soit sain, un secteur qui soit dynamique, avec des opérateurs d'assurance qui soient fiables, qui remboursent et indemnisent en cas de sinistre.
Rendons-nous à Mbandaka. L'Agence nationale de promotion de l'investissement, ANAPI, a sensibilisé hier les étudiants à devenir créateurs d'emplois. C'était au cours de l'atelier qu'elle a organisé à l'amphithéâtre professeur Njinda, en collaboration avec le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique ISP Mbandaka. Un atelier de vulgarisation et de sensibilisation sur les réformes opérées pour assainir l'environnement des affaires en RDC. Le compte-rendu de Paul Richard Malengela.
D'entrée de jeu, l'assistant Lasconi Elanza, un des orateurs du jour, a indiqué que grâce au système OADA et aux ressources locales, les étudiants de Mbandaka peuvent bien se livrer à l'entrepreneuriat.
En Mbandaka, il n'y a pas assez de producteurs de denrées. On les produit ailleurs. Les étudiants peuvent acheter par exemple les pondous, acheter les maniocs, même les poissons dans des villages environnants et venir les vendre ici.
Où trouver de l'argent?
J'ai dit aux étudiants, lorsque on vous envoie de l'argent pour payer par exemple les frais académiques, pour les manger, pour les loyers, alors que l'échéance n'est pas encore arrivée, ils peuvent utiliser cet argent-là.
Par ailleurs, le directeur chargé du climat des affaires à l'ANAPI, qui contient la délégation nationale de cette institution, explique la motivation de cette vulgarisation auprès des étudiants. Michel Maswapi.
Premier rôle, les étudiants sont des investisseurs potentiels, les catalyseurs du développement socio-économique. Étant jeunes, ils font des projections. Ils se disent, demain, je vais investir dans ça, 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 ça. Et ce sont les étudiants qui, à leur niveau, peuvent même donner des orientations auprès de leurs membres de famille, leur dire, vous avez des moyens financiers, voici ce que vous pouvez faire.
Au regard de cette sensibilisation, l'étudiant Essomba Makambo projette déjà la création de sa propre école.
Étant un gestionnaire de formation, je vis l'article 49. Selon le législateur scolaire, je vais créer mon école qui va produire une rentabilité.
Dans l'actualité, sachez aussi que la province de Maïndombe sera dotée dans les tout prochains jours de deux bateaux modernes de pêche. L'annonce a été faite par le député national élu d'Inongo, Aimé Pascal Mongo, lors d'une conférence de presse tenue dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe. C'était le mardi 23 juillet, dans le cadre de ses activités de vacances parlementaires. Les deux bateaux modernes de pêche rentrent dans le cadre d'un projet agro-pastoral dans Inongo et la ville pilote. Projet financé à hauteur de près de 50 millions d'euros par des investisseurs venus entre autres de la Belgique et de la France. C'est pour accompagner, dit-il, le gouvernement dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Le député national Aimé Pascal Mongo explique dans cet extrait sélectionné par Noëlla Luzitu Kabambi.
Vous m'avez vu arriver ici à Inongo avec une forte déclaration d'investisseurs. C'est parce que nous voulons effectivement accompagner le gouvernement par rapport à l'une des priorités de l'action du gouvernement, qui est l'agriculture. Avec les 5 millions de terres arables qui sont au niveau de la province de Maïndombe, nous avons pensé faire de cette province, avec nos partenaires, le grenier de la RDC. Il faut produire in loco, consommer in loco, mais alors des produits de qualité. Et c'est pourquoi nous avons estimé que la décision de l'État de faire des millionnaires ne doit pas rester un slogan creux et aussi arriver à arrêter l'importation qui nous prend plus de 3 milliards de dollars rien que pour importer les denrées alimentaires. Et je pense que le Maïndombe et surtout la ville de Nongo qui sera la ville pilote par rapport à notre projet puisse être la ville pilote en termes d'autosuffisance alimentaire et en termes des aliments de qualité. Nous allons être autour de 50 millions d'euros comme investissement au stade actuel. Et nous pensons aussi le faire ailleurs, là où nous avons été bien accueillis, si je parle du Kasaï central, dans la périphérie de Kananga.
Notez que ce projet agro-pastoral, initié par le député national Aimé Pascal Mongo, va s'étendre jusqu'à la province du Kasaï central. Le gouvernement appelé à assainir la RDC des mines et explosifs de guerre d'ici à 2025. C'est l'ONG Action Congolaise pour interdire les mines qui réitère cet appel. Elle l'a fait mardi à l'occasion d'une campagne de sensibilisation dans les camps de déplacés sur le danger des mines et engins explosifs. Cette ONG humanitaire intervient dans le plaidoyer et l'assistance aux victimes des mines. Sifa Maguru a assisté à cette séance de sensibilisation à Kanyaruchinya. Voici son reportage.
Sur les banderoles, on pouvait lire des messages tels que « Éradiquer les mines, c'est sauver des vies. Halte à l'utilisation des mines, leur transfert et leur stockage. » Pour Élisée Kabiribiri, chargée des plaidoyers, la RDC ne respecte pas encore ses engagements concernant la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines.
Parmi ces engagements, il y a l'assistance aux victimes des mines et autres explosifs de guerre, la prise en charge socio-économique mais aussi mentale. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement n'a pas encore fait. Il y a aussi la Convention d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions. Le Congo a déjà signé cette convention il y a très longtemps, depuis 2009. Ça fait 15 ans, nous les rappelons de ratifier cette convention.
Que faut-il faire pour assainir les sols de la RDC des mines et explosifs de guerre?
D'abord, il faut qu'il y ait la sécurité. Quand il y a la sécurité, il n'y aura pas ces groupes armés qui éparpillent les armes un peu partout. Pour les mines qui sont déjà au Congo, il faut qu'il y ait des minages, mais aussi il y a ces blessés-là, il faut l'assistance.
Cette campagne a commencé dans les écoles, les églises de Goma et Nyiragongo avant de s'étendre au camp des déplacés, indique-t-elle. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, les jeunes de 21 communautés et d'autres structures sont sensibilisés à bannir les discours et messages de haine et de promouvoir des discours tolérants et constructifs pour la construction de la paix dans cette province affectée par les conflits armés depuis 2017. C'est dans un atelier de deux jours organisé par la Coordination nationale des jeunes intercommunautaires au Congo avec l'appui de la section des affaires politiques de la MONUSCO. L'objectif est d'impliquer toute la jeunesse dans la recherche d'une paix durable. Reportage de Lydia Chombe rendu par Aminata Moussaïdizi.
Une centaine de jeunes issus des différentes structures dont la société civile, le comité des déplacés et les communautés ethniques locales prennent part à cet atelier de deux jours. Les participants ont échangé sur le cause des discours et messages de haine, notamment la manipulation des jeunes à travers les réseaux sociaux, le manque de culture de tolérance et les conflits identitaires et les divergences d'opinions et des croyances religieuses, mais aussi la faiblesse de l'autorité de l'État qui suscite ces antivaleurs. Face à ces défis, les jeunes ont pris l'engagement de privilégier les dialogues pour résoudre les différends, la tolérance et l'amour. C'est là, envie de contribuer à la pacification de cette province. Benjamin Michiki, coordonnateur de cette organisation.
Les communautés de l'Ituri puissent vivre ensemble, puissent développer l'Ituri ensemble. Puisque dès qu'il y a le vivre ensemble, il y a la paix, il y a aussi le développement. Et c'est pourquoi je vais appeler la population iturienne de développer la culture, de vivre ensemble. Et puis, dès que nous vivons ensemble, nous allons développer notre province de l'Ituri.
Le gouvernement doit également renforcer son autorité sur toute l'étendue de la province pour consolider la paix en Ituri, indique l'organisation.
Gouvernance, élections locales et développement, le thème était au centre d'une tribune populaire initiée à Kananga par le Conseil régional des ONG non gouvernementales de développement avec l'appui de l'Union européenne. Ont participé à ces échanges les acteurs venus des entités territoriales décentralisées, les bourgmestres, les représentants de la société civile et les jeunes. De ces réflexions, il a été relevé que la gouvernance des entités est en souffrance et l'État est appelé à finaliser des élections à tous les niveaux pour améliorer cette situation. Le secrétaire exécutif provincial du Conseil régional des ONG non gouvernementales de développement soutient que cela permettra aux différents acteurs de s'impliquer dans la gouvernance locale pour le bien-être de la population. Albert Kyungu l'a dit à François Kadima.
Cette gouvernance souffre du fait que aujourd'hui, par exemple, en ville, nous avons des conseils communaux qui sont élus et nous avons des exécutifs communaux qui sont nommés et le fonctionnement n'est toujours pas facile à harmoniser. Et donc, les bourgmestres fonctionnent à vase clos dans leur coin. Les conseillers se démènent encore, ils n'ont pas encore pris formellement fonction, le processus est bloqué. Et donc la gouvernance de nos ETD en ville en particulier est en panne. Il faut repenser ça. Et déjà, on se rend compte que ce sont les élections locales qui devraient aller jusqu'au bout, faciliter cette gouvernance. Et donc les élections locales se sont limitées quelque part. Il a été recommandé que le gouvernement central et les pouvoirs organisateurs des élections, la CENI, se mettent en ordre pour finaliser les processus électoraux. Ça, c'est un appel pressant de la population. Pour améliorer cette gouvernance, il faut qu'il y ait ces organes-là, fonctionnels et opérationnels, pour voir dans la même direction les questions de gouvernance aux entités.
Province du Bas-Ouélé, le gouverneur de province a publié tard dans la nuit de lundi dernier la liste des membres de son gouvernement provincial. Cette équipe est composée de 10 ministres, dont une femme. En attendant son investiture prochaine à l'Assemblée provinciale, le gouverneur du Bas-Ouélé a réuni toute son équipe hier pour une prise de contact. À l'occasion, Mike David Mokeni leur a donné certaines directives avant leur entrée en fonction. Jacques Moukonkole nous en parle.
Pour certains observateurs avertis dans les milieux sociopolitiques de Bouta, Mike David Mokeni compte sur la jeunesse. Il a également fait confiance à l'expertise de certaines personnalités du milieu afin, pense-t-il, de tirer ou d'encadrer les nouveaux venus. Tous devront se battre pour répondre aux multiples défis de la province, notamment les infrastructures de base et l'encadrement de la jeunesse. Ainsi, il a confié par exemple l'aménagement du territoire, les travaux publics et les infrastructures à Eli Aloua. Landry Mavoula, un jeune juriste, se voit confier le transport, voie des communications, jeunesse et sport. Madame Mifi Angbangbou, l'unique femme faisant partie de ce gouvernement provincial, est en charge de l'environnement, genre et famille. Lors de sa réunion d'hier, le jeune gouverneur Mike David Mokeni a enjoint ses collaborateurs à se départir des antivaleurs. Il défend désormais privilégier l'intérêt supérieur de la province pour son décollage éventuel. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les États-Unis annoncent des nouveaux pourparlers de paix prévus en Suisse le mois prochain. C'est pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage le Soudan. Cependant, le porte-parole du département d'État exprime son incertitude quant à la probabilité d'un accord. Il souligne toutefois l'importance de ramener les parties à la table de négociation. Ces discussions, sachez-le, soutenues par la communauté internationale, sont essentielles pour mettre fin au conflit et prévenir la famine, indique la même source.
L'invité.
Tommy Lukela, Guérir par la raison, c'est le dernier né dans le monde de la littérature à Goma. Ce livre de 90 pages est passé sur les fonts baptismaux dimanche dernier à la Maison des Jeunes de Goma. L'auteur du livre, Moïse Angui, 25 ans révolu, est un passionné de la philosophie et de la littérature. Il œuvre également dans la protection des droits humains. Il est avec Chris Mukand Matande.
Moïse Angui, bonjour.
Bonjour à vous.
Tommy Lukela, Guérir par la raison, c'est quoi l'idée derrière ce thème?
Alors c'est un essai d'abord en ce qui concerne les genres littéraires, donc j'ai essayé un peu d'aborder plus les genres argumentatifs, c'était vraiment ça mon choix. Je sais qu'il y a d'autres qui optent pour les genres poétiques, il y a d'autres qui choisissent l'islam, et bien d'autres genres littéraires pour exprimer effectivement leur pensée. Moi, j'ai décidé, en tout cas, de faire un essai. Tommy Lukela, c'est un livre de 90 pages. J'ai en tout cas abordé trois thèmes principaux. Le premier, c'est la méconnaissance de soi. Le deuxième thème développé dans ce livre, c'est la lutte contre les stress. Et j'ai également parlé de la lutte contre les traumatismes et le leadership transformationnel. C'est d'abord ça ce qu'il faut comprendre en termes de thématiques. Tommy Lukela, c'est en lingala, ça veut dire se connaître, l'estime de soi, kujijua, comme nous le disons en swahili. Voilà, d'abord c'est ça en gros. Pourquoi je l'ai écrit? C'est un projet que je viens de réaliser, ça fait autour de 7 mois. J'ai commencé ce projet au début de l'année. Aujourd'hui, je suis très content de l'achever. Certainement que la chaîne du livre continue, mais j'ai quand même été honoré par effectivement la reconnaissance de la maison d'édition et de tous les aînés écrivains qui ont participé à la cérémonie de cet ouvrage. Je suis convaincu que chaque humain a un potentiel au fond de lui, chaque humain a un talent. Et cet talent-là est de nature à servir l'humanité, aussi bien que l'on essaie un peu de les reconnaître, de les développer et de les déployer, de les mettre au profit de la communauté. J'ai donc essayé un peu de faire une sorte d'interpellation à l'endroit de mes lecteurs qui ne se connaissent pas. Apollo de son époque disait « connais-toi toi-même afin de bien mener ta vie ». écoute la divinité qui te parle et découvre la vérité qui est cachée dans toi. Cette citation qui était plus véhiculée par le philosophe Socrate, qui est considéré d'ailleurs comme étant le père fondateur de la philosophie, m'a beaucoup plus inspiré en écrivant ces livres. Et j'ai pensé aussi que c'est important que je suscite ces débats-là dans les chefs des uns et des autres pour comprendre que chacun est venu sur cette terre avec une mission. Cette mission doit être accomplie. Il y a des blocages, notamment les stress, tous les corollaires, les traumatismes, la pauvreté, tout ce que nous vivons au quotidien qui ne nous permettent pas d'aboutir ou d'accomplir notre mission. Et moi, dans ce livre, j'essaie un peu de démontrer les mécanismes et les astuces nécessaires qui peuvent nous permettre de faire face au stress, de faire face au traumatisme, de faire face à tous les aléas de la vie en vue de réaliser son rêve. Et moi, en tant qu'écrivain, en tant qu'activiste, je pense déjà avoir déceler ma mission sur cette terre. Et je suis en train de l'accomplir petit à petit. Et je pense que ça sera un grand plaisir si d'autres personnes qui sont là parviennent aussi à savoir pourquoi ils existent. Leur rêve, leur mission et que faire pour accomplir cela. C'est vraiment le condensé de ce livre. Son style est très simple et adapté. Je crois que mon public, mes lecteurs ne seront vraiment pas déçus.
Ainsi, la lecture de ce livre s'avère d'une grande importance pour l'habitant de Goma et du Nord Kivu.
Absolument. C'est vraiment un livre que je vais appeler une thérapie, surtout pour cette population du Nord Kivu meurtrie par les affres de la guerre. J'ai aussi parlé dans un des chapitres développés dessus du traumatisme et des astuces nécessaires pour faire face à cette agression contre l'organisme.
Moïse Angui, merci.
Notre invité répondait aux questions de Chris Moukand, ma tante. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Polydor Basunga à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.